moi j'ai André Limbouchima au Katanga oriental. J'ai refusé totalement ce qui
est. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le ministère de l'Intérieur a lancé, avant-hier mardi, à Kinshasa, la campagne nationale de communication sociale sur la décentralisation. Pendant 3 mois, à partir de la semaine prochaine, cette campagne se tiendra dans toutes les provinces de la RDC. Elle a pour but de vulgariser la notion de décentralisation auprès des populations. Cette troisième phase vient compléter les 2 autres qui avaient été lancées au mois de mai 2010 dans la commune de Kassavubu et mai 2011 à Boma dans la province du Bas-Congo. Que pensez-vous de cette initiative et que proposez-vous pour la réussite du processus de décentralisation en RDC? Nous en parlons dans ce studio avec Maître Gilbert Kiatingé qui est expert en question de décentralisation. J.R. Lungembo, Berry Franklin Luchaka réalise cette émission mise en onde par Paul Badianyama. Pierrot Elamejou vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. 081 890 4339, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
L'explication du processus de décentralisation au menu de la campagne nationale des communications sociales qui a été lancée le mardi dernier à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur. Comme je le disais, l'objectif est de pouvoir rapprocher davantage la population de la compréhension de ces processus. Une campagne qui va se dérouler pendant 3 mois pour compléter ainsi celle lancée en 2010 et 2011. Nous nous penchons avec vous sur cela, mais nous dégageons aussi les pistes de solutions pour qu'on arrive à l'installation définitive du processus de décentralisation en RDC. Maître Gilbert Kiatingé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Capi pour qu'on débatte encore sur cette question de décentralisation. Une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée hier, mais bien avant de revenir à la campagne, jetons-nous un peu en arrière pour savoir quelles ont été les avancées jusqu'à aujourd'hui par rapport à l'installation du processus de la décentralisation en RDC.
Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais commencer comme d'habitude par saluer tous les auditeurs de Radio Capi et surtout les fidèles auditeurs de votre émission Parole aux auditeurs. C'est leur émission, je crois que ils doivent absolument suivre avec attention ce qui va se passer ici. Alors, je crois que la question de la décentralisation a toujours fait l'objet de beaucoup de polémiques. Il y en a qui estiment que la décentralisation n'avance pas. Il y en a qui disent qu'elle avance à pas de tortue. Il y en a qui estiment que, eh bien, on est sur le bon chemin, on est en train d'avancer à pas de géant. Mais il est un fait que la décentralisation, c'est une très grande réforme et donc on ne peut pas l'apprécier en prenant en compte seulement quelques aspects. Mm-hmm. Il faut l'apprécier dans sa globalité, c'est-à-dire dans ses aspects, tous ses aspects de mise en œuvre. Mm-hmm. Et cette mise en œuvre passe par non seulement l'adoption et la promulgation des textes juridiques, mais aussi et surtout l'installation des institutions ou la mise en jeu des acteurs de la décentralisation. Mmh. Et donc, par rapport à la question des textes juridiques, il y a bien sûr un certain nombre de textes qui ont déjà été adoptés, on continue à en adopter d'autres. Et sur ce plan-là, on estime qu'il y a quand même une lueur d'espoir par rapport à la mise en œuvre, sur le plan du moins formel, sur le plan des textes juridiques, parce que nous attendons, nous savons que sur la table de l'Assemblée nationale, on a déjà préparé la loi, le projet de loi qui va fixer les limites des provinces. Mmh. Hein, et la loi de programmation de mise en œuvre, ce sont des textes qui sont très très capitales pour le découpage. Et nous attendons donc que ce texte soit adopté. Mais bien d'autres textes ont déjà été adoptés, notamment la loi. Il y a une ordonnance loi qui fixe la nomenclature des taxes. Et il y a des lois sur les lois qui étaient déjà promulguées avant, comme la loi sur la libre administration des provinces, qui a même déjà été révisée par rapport à la constitution actuelle. Il y a la loi sur les entités territoriales décentralisées, les entités territoriales déconcentrées. Il y a pas mal de lois, notamment sur la conférence des gouverneurs. Et il y a aussi un certain nombre de lois sectorielles, par exemple la loi sur l'enseignement, la loi sur l'agriculture, donc le code agricole. Tous ces textes-là sont très très indispensables pour la mise en œuvre de la décentralisation. Et donc, on peut estimer que, comme c'est un processus, on est en train d'évoluer. Mais l'appréciation dépend de chacun, parce qu'il y en a qui disent quand le verre est à moitié plein, il est
à moitié vide.
À moitié vide, bon, ça dépend. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites pour que la décentralisation vienne. Mais je sais que par rapport à l'attente, parce que l'objectif final de la décentralisation, le consommateur final de la décentralisation, c'est le peuple. Il faudrait que le résultat de tout ce qu'on fait soit que les besoins sociaux de base, hein, tels que la construction des hôpitaux, les écoles, des poubelles publiques, la voirie, tout ça, les besoins sociaux de base soient satisfaits. Donc, lorsque la population qui se trouve au fin fond de la République, dans des provinces, dans des communes, dans des secteurs, lorsque cette population va sentir qu'il y a des institutions ou des organes locaux qui prennent en charge leurs besoins sociaux de base, c'est à ce moment-là qu'elle va comprendre que la décentralisation est vraiment en œuvre.
Et là, vous l'avez dit, vous avez expliqué par principe, d'abord en ce qui concerne les textes juridiques qui doivent en principe accompagner ces processus. On en a déjà autant, les autres sont en train de venir. Ça, c'est sur les plans juridiques, mais sur le plan politique. Parce que le débat au niveau autour de la décentralisation, il y a à un certain moment, c'est un débat qui devient aussi trop politique. Et sur le plan politique, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a beaucoup d'efforts qui se font aussi pour qu'on puisse matérialiser cette décentralisation?
Oui, c'est en fait là que je voulais intervenir par rapport au thème du jour, la campagne de vulgarisation, la campagne de sensibilisation, la campagne de communication sociale. Je suis de ceux qui pensent que cette campagne ne doit pas être adressée seulement aux gens d'un certain niveau. Elle doit commencer par, je peux me dire, le sommet de l'État. Parce que, en fait, la décentralisation, ce n'est pas l'affaire des simples citoyens, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, la campagne vise l'appropriation du processus. Tout le monde doit s'approprier ce processus. Donc, on doit le comprendre, on doit en faire son affaire. Et cela dépend, commence par le sommet, parce que les ordonnances, les textes de loi sont édictés au niveau du sommet. Et si ceux qui édictent des textes de loi, ceux qui prennent des décisions importantes sous forme d'ordonnances, de décrets ou d'arrêtés,
ne s'approprient pas la
décentralisation, eh bien il y aura une dichotomie entre la volonté du constituant qui a érigé la décentralisation comme mode de gestion du pouvoir et la conception, disons, le mode d'action, les agissements des gouvernants qui ignorent la portée réelle de la décentralisation. Donc, on doit commencer par le sommet, par les institutions nationales. Les acteurs de ces institutions doivent s'approprier la décentralisation pour conformer leurs actions, leurs agissements à l'esprit de la
constitution, de la décentralisation.
Donc nous avons besoin des gouvernants à l'esprit décentralisé.
Ok, on va revenir à vous. Nous avons Placide qui est en Boujimaï, Franck est à Vienne, Adrien est à Kananga. Nous allons vous accorder la parole. Je rappelle encore 081 890 43 39. La campagne de communication sociale sur la décentralisation a été lancée, c'était le mardi dernier à Kinshasa. Elle vise bien sûr à expliquer l'importance de ces processus auprès de la population. Et nous projetons dans l'avenir avec vous pour savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour parvenir à réussir ces processus de centralisation. Vous pouvez nous joindre à ce numéro de téléphone.
parole aux auditeurs.
Galvani, vous êtes en Mbujimayi au Kasaï Oriental. Bonjour. Galvani, bonjour. On a perdu notre premier auditeur de Mbujimayi au Kasaï Oriental. Là, nous allons à Kananga au Kasaï Occidental. Avant de revenir à Franck, nous allons d'abord prendre Adrien qui est à Kananga au Kasaï Occidental. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour Pierre Lamingier. Bonjour à monsieur l'invité.
Vous avez suivi notre introduction. Je crois qu'il y a depuis 2010, les campagnes ont été lancées pour vulgariser le processus de décentralisation auprès de la population. Sur les plans pratiques, est-ce qu'à Kananga, vous avez déjà eu à assister à des séances de sensibilisation, d'explication sur l'importance de la décentralisation, bien avant que nous puissions formuler des pistes et des solutions?
Notre implant ici au Kasaï Occidental, non, parce que nous n'avons pas vu encore ce genre de campagnes organisées ici dans la province du Kasaï Occidental. Et nous nous demandons pourquoi ça doit toujours se limiter au niveau de Kinshasa. Or, la décentralisation doit profiter à tout le monde et c'est un souhait d'ailleurs pour tous.
Oui, Adrien, vous dites que vous n'avez jamais assisté à la campagne sur la sensibilisation, mais je crois bien la campagne lancée le mardi dernier, comme les autres qui ont été lancées, ont pour vocation d'atteindre les fins fonds, aller dans toutes les provinces pour expliquer ces processus. Et alors, par rapport aux propositions pour la réussite de ces processus, quel est votre point de vue, Adrien?
Oui, merci. C'est là que je voulais un peu marteler, parce que vous devez savoir que la République démocratique du Congo, ce n'est pas Kinshasa. Et si vous analysez bien la situation, vous allez vous rendre compte qu'à Kinshasa, il y a quand même des gens qui suivent des radios, des télévisions, qui sont informés à tout moment. Mais au niveau des provinces, au niveau des territoires, au niveau des villages, c'est un silence radio. Moi, je pense qu'on pouvait constituer une commission. Et cette commission-là devait être prise en charge par le gouvernement congolais pour essayer un peu d'atteindre tout le monde, donc à tous les niveaux possibles. Là, c'est donc le premier point pour réussir, parce que lorsque toute la population ne sera pas atteinte par rapport à cette campagne-là, il y aura déjà un blocage. Et puis, deuxièmement, il se pose un sérieux problème sur le plan politique, parce que sur le plan juridique, il ne se pose aucun problème. Les textes sont là, il suffit tout simplement qu'on puisse le vulgariser, qu'on puisse les soumettre, donc les mettre à l'appréciation de la population. Il ne se pose rien. Mais sur le plan politique, Pierrot, tenez bien, il y a certains politiciens qui veulent bloquer donc ce mécanisme-là de décentralisation. Oh, on ne sait pas pourquoi ils veulent le faire. Et c'est là que moi j'ai une crainte. Je vous donne le cas de la province du Kasaï Occidental. Avec la décentralisation, il y a déjà des bruits. Il y a des petits conflits, ça et là, entre autres, le faux, qui tape, et il est faux. Ces trois entités-là se disputent par rapport à la province, la deuxième province qui sera créée. Et cette province-là, son chef de terrain, où? Et là, les politiciens s'y mêlent pour essayer de faire tirer les gens de leur côté. C'est pour cela que je suis en train de mettre une crainte sur le plan politique, parce que sur le plan juridique, il n'y a pas vraiment de débat.
Voilà, merci Adrien. Vous dites que sur le plan juridique, il n'y a pas de problème, hein, les textes sont là, il y a d'autres textes qui vont venir. On ne sent pas de problème, mais le problème c'est plutôt sur le plan politique. Hein. Vous donnez l'exemple du Kasaï Occidental, vous avez peur qu'avec, si ce n'est pas bien expliqué, il y a déjà la guerre autour du chef-lieu de la future province, n'est-ce pas? C'est entre le beau, Tshikapa, il est beau. Déjà au niveau politique, c'est cette bagarre politique des positionnements risque de mettre en mal le processus de décentralisation, c'est votre crainte. Merci beaucoup, Adrien. Franck, vous êtes avec nous de l'extérieur du pays. Bonjour.
Bonjour, M. Pierre, le journaliste. Bonjour à l'invité. Cordiales salutations à tous les auditeurs.
Vous avez suivi notre premier auditeur, mais les soucis aujourd'hui pour les uns et les autres, hein, c'est qu'on parvienne à réussir ces processus de décentralisation. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse réussir cela, Franck?
Merci beaucoup pour la parole accordée. Je crois que pour le moment, je ne veux plus intervenir pour rappeler la nécessité de la décentralisation pour un vaste pays comme le nôtre. Nous sommes déjà d'accord que le développement de notre pays ne pourrait être possible qu'à base d'une administration vraiment efficace qui saurait approcher les administrés de tout le monde, quoi. Mais seulement je me rends compte qu'à base de sensibilisation, on peut atteindre quelques objectifs, mais je ne suis pas certain convaincu qu'on pourrait atteindre toutes les couches de la population. Parce que, à l'introduction, vous avez dit qu'en 2010, il y a eu une campagne dans la commune de Kassavubu, puis dans la ville de Boma, et disons que c'est dans certaines villes ou certains centres urbains. Moi, je trouve personnellement que la décentralisation, c'est un vaste projet citoyen qui doit avoir une certaine jonction interministérielle. Pourquoi ne pourrait-on pas insérer ce thème de la décentralisation dans le programme scolaire et universitaire de nos écoles en République démocratique du Congo? Parce que si c'est seulement un ministère qui s'en occupe, c'est bien. Mais si ça peut devenir un projet citoyen avec une certaine jonction interministérielle, ça serait encore plus efficace. Je m'en vais là dire, par exemple, pour moi, ce projet devait mettre en concertation le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Genres et Familles, le ministère des Affaires Sociales, le ministère des Justices, le ministère des Finances et aussi des Budgets. Parce que on doit enseigner cette vision de la décentralisation à toutes les générations montantes de la population congolaise. Alors, quand on dit que la décentralisation doit être comprise par le Congolais, mais les Congolais, ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans des institutions dirigeantes. Mmh. Dans un pays comme l'Allemagne, dans un pays comme l'Autriche, on apprend déjà la vision décentraliste dès l'école déjà. Et les enfants qui grandissent savent comment leur pays est administré. Si bien que quand on leur confie des responsabilités, ça ne pèse pas pour qu'ils les appliquent. Mais chez nous, le danger est que on parle d'un projet, la décentralisation, mais cette décentralisation n'est pas enseignée. Et c'est là la crainte, parce que la décentralisation ici, c'est un projet citoyen. Je suis personnellement content d'entendre l'invité dire que ceux qui dirigent au plus haut sommet de l'État doivent être imprégnés de cette vision. C'est bien. Mais je crois que la plupart de ces gens qui se trouvent dans ces instances n'ont pas été dans ces écoles avec cette vision de la décentralisation. Si bien que au moment de l'appliquer, ils ont eu des difficultés. Je me dis, ça doit commencer par la base, l'école. Les enfants grandissent dans ça, dans des universités, on les rappelle. Et quand quelqu'un sera ministre, quand il sera ADG, il sera bourgmestre, il a déjà cette vision dans son mental. Et moi, je crois que cette vision peut avoir des racines si elle est correctement enseignée de la base. Mmh. À base, en fonction d'une simple campagne, c'est bien. Mais je ne trouve pas qu'on pourra atteindre toutes les couches de la population. Ainsi, cette vision, si elle doit être enseignée dans des écoles, il faut imprimer des livres, il faut insérer, il y a le ministère qui s'occupe de la citoyenneté. Ce sont des projets qu'on devait récupérer dans ce niveau-là et l'étendre, les diffuser partout, dans les chaînes de télévision. Mm-hmm. Je trouve qu'une campagne, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut encore l'étendre dans le système de l'enseignement de notre pays.
Merci beaucoup, M. Franck. Vous avez donné l'exemple là, de là où vous êtes, en Allemagne et ailleurs. Hein, vous pensez que le programme de la décentralisation est inséré dans le système éducatif, ce qui fait qu'un enfant qui grandit déjà, il sait comment, quel est le mode d'administration et de gestion de son pays. Et quand il pourra occuper des postes de responsabilité, il va gérer sans beaucoup de difficultés. Il faut aller au-delà de la campagne, mais inscrire cela dans un programme formel au niveau de la société pour permettre à ce que la décentralisation et les processus puissent réussir. Merci beaucoup, Franck. Nous allons à Lubumbashi au Katanga. Maître Mashaka, vous êtes avec nous. Bonjour. Maître Mashaka, bonjour. Voilà. Maître Mashaka serait peut-être distrait sur la ligne. Nous retournons à Kinshasa. Kabongo, monsieur, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Mbote Djambo à tous les okapistes de la Radio de la Paix.
Vous avez suivi les uns et les autres au-delà de la campagne de sensibilisation auprès de la population pour qu'elle s'approprie la notion de la décentralisation, mais parce que les gens ils ont besoin de l'effectivité, il y a aussi des problèmes de compréhension politique qui se posent. Alors, quelles sont les mesures qu'il faut prendre d'une manière efficace pour réussir ces processus et confiance?
Oui, sincèrement, je dirais aussi merci à Franck qui a pratiquement brossé l'essentiel de ce que j'allais dire. Je vais peut-être le dire en d'autres mots, d'une manière simple, c'est la systématisation de cette sensibilisation. Moi, je suis en train de craindre une chose. Vous voyez, des choses qu'on fait souvent à la hâte. J'ai craint une chose dans ce pays, c'est que c'est juste un moyen de sortir l'argent et de trouver à le justifier. Mais moi, je pense que ce n'est pas possible avec une campagne de un mois, de deux mois ou de trois mois d'atteindre une grande partie de la population. Donc, le mieux à faire, c'est de systématiser cet enseignement-là. D'abord à l'école primaire, il y a toujours moyen de simplifier l'enseignement. On passe au secondaire et on va à l'université. Mais la difficulté, c'est que ces hommes qui nous dirigent n'ont pas la même façon de voir. Le peuple ne pose pas de problème. Il n'a même pas besoin d'être sensibilisé parce que quand on lui a demandé au référendum de voter, il a voté. Donc, ça pose pas un problème aujourd'hui. Ça pose un problème de l'exécution de ce que le peuple a voté. Donc, c'est un peu ça le problème. Si on mettait ça en exécution, la meilleure façon d'enseigner, c'est d'avoir un matériel didactique. On apprend, on enseigne en apprenant, en exécutant, en exerçant. Là, on va être en train d'exercer ce pouvoir-là et ça va être facile. Vous savez comment les policiers entre eux se battent pour cette histoire de rétrocession et consorts. Ce sont des problèmes qui surgiront. Le danger, c'est que avec tout ce qu'il y a eu comme passé, rébellion, sécession, c'est cette crainte-là que la plupart des gens ont toujours eu. Mais si on expliquait bien à la base, ce serait une très bonne chose. Donc, d'une manière brève, c'est la systématisation de cet enseignement, de cette sensibilisation. Ça ne doit pas être des choses ponctuelles. Dans des choses ponctuelles, il y a juste un moyen de sortir l'argent et de bouffer et ainsi de suite.
Merci beaucoup, confiance. Il faut une systématisation de la sensibilisation, mais le peuple ne pose pas assez de problèmes, hein, parce que vous pensez le fait déjà qu'ils aient accepté au référendum la constitution avec les explications si possible autour de la décentralisation, c'est déjà un pas. Le reste, c'est de pouvoir aller au-delà des considérations politiques pour parvenir à exécuter ce qui a été déjà décidé. Merci beaucoup. Sylvain, vous êtes à Bounia, en province orientale. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs
oui,
de la Radio Capi.
Quelles sont les propositions?
Je voudrais d'abord dire que l'Ituri a besoin vraiment de la décentralisation pour son développement. Et comme les autres l'avaient déjà invoqué, vous savez, chaque fois que nous parlons de la question de la décentralisation, j'ai toujours souhaité rentrer au débit. C'est à Sand City que nous, Congolais, nous décidons de gérer la RDC à travers les 26 provinces. Et ça veut dire que nous avions l'idée de rapprocher l'administration, la gouvernance, n'est-ce pas, aux dirigeants. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, ça pose un problème. Il y a des épines que l'irrespect de la Constitution, à ce qui concerne la décentralisation, a causé à la République. Les MV3 et consorts, les questions politiques, vous pouvez énumérer, je vais vous exempter de l'énumération. Aujourd'hui, le gouvernement s'est réveillé. Une bonne chose pour moi. Mais je suis contre la méthodologie. Il faut sensibiliser. C'est bien. Mais est-ce qu'il faut passer par des chaînes de radio? Les autres disent même qu'il faut aller vers les écoles. Il faut aller dans les universités. Bon, peut-être que c'est une façon classique, mais moi je pense ici. La Constitution de la République a prévu le mécanisme de la décentralisation de l'État congolais. Et à la législature passée, on a même voté une loi qui allait programmer cette décentralisation. Mais où est-ce que nous sommes arrêtés? Moi je pense que la décentralisation n'est pas un mécanisme de l'enseignement théorique. La décentralisation dont la RDC en a besoin et dont le peuple en attend urgemment. C'est une pratique politique. C'est une méthodologie d'approche pragmatique qui consiste à aller vers les découpages pratiques. Il y a des parties de la République qui démontrent d'une viabilité de gouvernance autonome très avancée. Mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement de Kinshasa ne veut pas aller dans les choses réelles? Moi, je vais proposer deux choses. Il est bien désensibilisé, mais moi je pense que le ministère de la décentralisation de l'intérieur doit faire un état des lieux et programmer effectivement la décentralisation. Si je vous donne le cas de l'Ituri, moi je suis en Ituri, je vous appelle à partir de Bounia.
Oui.
Quels sont les éléments qui manquent pour que l'Ituri soit décrété province et qu'aujourd'hui les mécanismes prévus dans la Constitution soit réalisé? On a parlé de la caisse de péréquation qui pourrait pallier à certains problèmes de financement d'autres provinces à déficit de capacité de financement. On a parlé des questions de gestion de ressources autonomes. Pourquoi on ne veut pas aller là-bas? Et aujourd'hui, M. Pierrot, je crois que les gens qui gèrent ces pays doivent être conscients que ce sont eux qui créent des problèmes. La sensibilisation théorique, comment ça va atteindre un monsieur qui habite à Kwarangaza, en Djougou, puisque vous en parlez. Mais si vous dites aujourd'hui que l'Ituri, on va faire un échantillon, ça devient une province. On décrète la gestion autonome de l'Ituri comme province. Alors, essayons voir si l'homme de Kwarangaza n'aura pas l'impact de cette gestion. Donc moi, je pense que des questions théoriques sont des questions inutiles. Il faut aller à des choses pragmatiques.
Merci,
Sylvain. Je ne vais pas prendre assez de temps si j'ai appelé.
Merci beaucoup, Sylvain. Voilà.
Je voulais que les choses partent autrement.
Merci beaucoup, Sylvain. Vous souhaitez, comme l'a dit encore Franck, hein, que la meilleure la meilleure manière de pouvoir sensibiliser sur la décentralisation, c'est d'y aller pratiquement directement, et cela va permettre à ce que la population comprenne plus facilement la notion de la décentralisation, aller à l'effectivité de ce qui est décidé au niveau de la Constitution. Nous allons écouter Mathieu Kitakalanga, on va revenir à notre invité pour commenter ses premiers groupes, ses points de vue, et puis Maître Machaka, vous allez garder la ligne à Kananga, c'est Mathieu qui nous appelle. Bonjour Mathieu.
Oui, prophète Mathieu Patrick de Kananga.
On vous écoute rapidement, oui.
En ce qui me concerne, M. Pierrot, je sais très bien que la décentralisation est des modes de gestion qui consacrent la participation des collectivités locales à la gestion de la chose publique. D'ailleurs, c'est un choix qui a été opéré par le peuple congolais après un constat de système de décentralisation de l'organisation territoriale et administrative, caractérisé par la marginalisation des entités décentralisées et les déséquilibres qui a en matière de développement entre les centres urbains et les entités territoriales de base. C'est suite à tous ces obstacles enregistrés sur terrain que le peuple congolais avait décidé de tourner la page d'une territoriale ignorante. Il refuse de subir un pouvoir fortement centralisé qui l'éprime comme la longue dictature mobutienne à la chute de cette dictature et à l'avènement de la Troisième République. Ils sont optés pour les changements. Ils l'ont exprimé lors du référendum populaire en décembre 2005 et inscrit dans la constitution du 18 février 2006. Mais en outre, M. Pierrot, nous gardons encore le stigmate du passé. Ce mode de gestion appelé découpage territorial n'est pas l'état nouveau ou récent en République démocratique du Congo. Aux premières expériences, nous avons enregistré des multiplicités de rébellions. Le tribalisme était transformé au mode de gestion. La haine raciale, la division, plus grave, la sécession et autres. Maintenant, avec des mouvements rebelles partout et les bandits armés sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire, en vrai sens du mot d'après moi, le pays est en état d'insécurité totale. Quelle est la mesure prise par le gouvernement pour réussir à cette test que je considère ainsi?
Merci Pierrot.
Merci beaucoup Monsieur Mathieu. Vous avez posé le problème de concilier la compréhension de la décentralisation, les conséquences du découpage territorial. Hein. On doit vraiment en parler avec notre invité parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les uns et les autres hein, autour de la décentralisation et aussi autour de la compréhension du découpage territorial. Mais merci beaucoup de votre point de vue. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi, gardez la ligne. Nous allons revenir à vous. Je rappelle 081 890 43 39, c'est le numéro d'appel pour intervenir à cette émission consacrée bien sûr au processus de décentralisation en RDC. Nous en parlons à cause bien sûr de cette campagne lancée par le ministère de l'Intérieur, la campagne de communication sociale sur la décentralisation qui s'adresse bien sûr à la population, qui va durer ainsi 3 mois à travers le pays, et les mesures que vous pensez qui doivent être prises pour réussir ces processus de décentralisation.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Maître Gilbert Kiatingué, nous avons suivi les auditeurs. Ils se dégagent selon la compréhension de ces auditeurs. D'abord, le problème au niveau de méthodologie pour la sensibilisation, ça c'est un fait. Vous avez aussi déjà évoqué une autre voie. Mais en écoutant Mathieu, en écoutant Sylvain, il se dégage un problème. D'abord, c'est la peur que les uns sur le plan politique manifestent aujourd'hui face au problème de la décentralisation, alors que ça a été déjà consacré au niveau de la Constitution et que les politiciens avaient sensibilisé la population pour dire voter cette voter oui pour cette constitution, elle va nous permettre d'aller au développement. Je me rappelle quand nous avons été ainsi sensibilisés pour aller au référendum, et d'un côté la population s'étonne du devoir que ceux qui leur disaient hier d'aller rapidement voter pour soutenir cette constitution ont encore des hésitations pour appliquer ce qui est dit dans la même constitution. Alors d'où vient aujourd'hui, comment il faudrait élaguer cela, la peur que les uns et les autres ont par rapport au problème de découpage, au problème de conflits qui se présentent sur politique, sur la gestion des provinces. Comment on doit résoudre tout cela? Parce que la peur que nous avons, c'est que nous partons de 2006, aujourd'hui on a 2013, on risque d'aller toujours en longueur, et enfin on aura des choses décidées, votées au référendum, mais qu'on n'est pas en mesure d'appliquer aujourd'hui. C'est un peu ça ce qui est l'inquiétude quand on écoute les auditeurs.
Oui, merci beaucoup. Je crois que l'inquiétude est justifiée. Et c'est même la raison pour laquelle il faut vraiment soutenir la campagne de communication sociale pour que, en fait, tout le monde s'approprie le processus ou la réforme. Hein. C'est une des plus grandes réformes que notre pays ait connue. Et donc, il faut que le peuple comprenne, que la population comprenne, que les Congolaises et Congolais comprennent que la décentralisation, ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas un cadeau qui nous est donné par nos dirigeants. C'est le fruit de la volonté collective. Lorsque nous avons, j'ai même attendu un auditeur qui a rappelé le fait que nous avons voté, nous avons opté pour ce mode de gestion par référendum. Donc c'est en fait le fruit d'un consensus collectif. C'est notre affaire à tous. Et donc lorsqu'on commence une campagne, je préfère même qu'on l'appelle campagne de sensibilisation, pas de vulgarisation, comme si on nous imposait un texte, et maintenant il faut le vulgariser, donc le rendre vulgaire. Mais c'est une campagne de sensibilisation, pour que tout le monde comprenne que c'est notre affaire. C'est le peuple congolais tout entier qui a décidé que nous devons être gérés selon ce mode de gestion qui est la décentralisation. Et donc, dès lors qu'on va s'approprier ce mode-là, c'est nous qui allons exercer un contrôle sur ceux qui sont appelés à mettre en œuvre cette décentralisation-là. Au lieu que nous considérions que on nous impose des choses, que non, ces dirigeants-là, ils ont encore créé quelque chose pour bouffer l'argent ou pour faire ceci ou cela. Mais dès lors que nous comprenons que c'est pour nous, c'est pour promouvoir le développement de toutes les parties de la République, eh bien, je crois que nous allons surveiller, nous allons suivre avec un intérêt particulier l'évolution de ce processus-là. Il y a certes des inquiétudes par rapport à des concepts comme le découpage et tout, j'ai compris. Mais il faut savoir que tout cela, c'est notre volonté. C'est nous qui avons voulu que la République soit découpée en 26 provinces. Et ce découpage-là, c'est pour rapprocher l'administration des administrés. Mmh. Donc, on considère que le pays est tellement vaste qu'il faut réduire la taille des provinces pour qu'on bénéficie davantage des bienfaits de ce découpage-là. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le découpage n'est pas la décentralisation. Nous avons toujours parlé de ce découpage-là dans le contexte de la décentralisation, parce que chez nous, ça va de pair. Mm-hmm. Mais on peut découper le pays en autant de provinces,
mais sans toutefois
décentraliser. Mm-hmm. Hein, des pays comme l'Angola sont découpés en plusieurs provinces, mais gérés selon le mode de centralisme. Donc, c'est un système centralisé tout court. Donc, nous avons la décentralisation. Et cette réforme-là, elle est multisectorielle. Elle touche à tous les domaines de la vie sociale. Mmh. Elle doit intervenir dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine du développement rural, dans le domaine de l'énergie. Donc, à tous les niveaux. Parce que la Constitution avait déterminé les compétences des provinces, mmh, qui sont exclusives. Il y a des compétences qui sont reconnues au pouvoir central et il y a des compétences concurrentes. Et au niveau des entités territoriales décentralisées, il y a des attributions qui sont reconnues aux villes, des choses, mm-hmm, que la ville doit faire, que la province ne veut pas faire, mais qui sont réservées à la ville. Il y a des choses, des attributions reconnues à la commune, au secteur et à la chefferie. Donc ça, il faut le comprendre. Alors, on a déploré le fait que il n'y a pas systématisation de la campagne. Mmh. J'en conviens, parce que il y a risque que ceux qui vont procéder à la communication sociale, ceux qui vont procéder à cette vulgarisation-là, viennent de Kinshasa avec des textes déjà élaborés. Donc, le même texte qu'ils vont lire devant, je ne sais pas, les administrateurs de territoire ou les mandataires publics ou je ne sais pas quelle couche de la population, les intellectuels, les étudiants, s'ils vont lire le même texte devant les agriculteurs, devant les disons
les mamans maraîchères, ça va poser des problèmes de compréhension. Oui,
il y aura un problème de compréhension. Mm-hmm. C'est pour cela qu'à l'époque, lorsque nous étions à la décentralisation, nous avions pensé qu'il était bon de créer un partenariat avec les églises. Nous, on a passé déjà un accord avec l'église catholique, la Synco notamment, pour que la Synco prenne le relais de la communication. Mm-hmm. C'est-à-dire à sa manière, elle descend le message. Vous savez, il y a des églises qui sont implantées dans tous les coins et les recoins de la République.
Du pays, oui.
Et donc si ces églises-là prennent en charge la communication sociale, eh bien je crois que toute la population sera atteinte. Mmh. Mais encore une fois, il faut avoir des réserves, même lorsqu'on on affirme pareille assertion, parce qu'en fait, l'appropriation de la décentralisation, comme je vous l'ai dit, doit être tributaire, va dépendre de l'intérêt que chacun éprouve. Mmh. Parce que tant qu'on n'a pas encore organisé, par exemple, des élections au niveau des secteurs, des chefferies, ou des communes, de la ville, eh bien, les habitants des secteurs de chefferie, des communes et des villes, eh bien, ils vont penser que la décentralisation, c'est pour le niveau provincial, par exemple. Parce que là, il y a les assemblées provinciales, les gouvernements et tout ça. Donc, ils vont penser que ça, c'est vraiment des choses destinées à la consommation.
Mais
lorsque vous avez un maire de la ville,
pratiquement, oui.
Vous avez un maire de la ville pour qui vous avez voté. Vous avez un bourgmestre d'une commune issue des élections. Parce que les élections, c'est organisé, c'est la population qui vote. Mmh. Donc, pendant la campagne, on va vous expliquer certaines choses et on va vous dire, voilà, vous votez celui-ci parce qu'il doit faire ça et ça et ça et ça pour vous. Donc, vous allez vous intéresser mieux à la décentralisation, surtout au niveau de la commune. Quelles sont les attributions du maire? Quelles sont les attributions du conseil communal? Qui seront élus là-bas? Parce que au moins c'est une matière qui vous touche directement. Mm-hmm. Mais si on vient vous parler des assemblées provinciales alors que vous êtes dans le fin fond là, dans un secteur où il y a même pas beaucoup de routes de dessertes agricoles,
eh bien, ce sera vraiment du blabla.
Et là, on peut rejoindre Sylvain et Franck qui ont pensé qu'une bonne manière, même Confiance l'a dit aussi, c'est d'y aller sur le plan pratique.
Tout à fait.
Quelqu'un vit l'acte pratique de la décentralisation, il peut s'impliquer facilement. Plutôt que lui parler depuis 6 à 7 ans maintenant qu'on lui parle de la décentralisation, ça devient après tout un terme vague. Et puis, il comprend, comme l'a dit notre ami, que ça risque d'être vu comme juste quelque chose qui est monté par les politiciens. On bouffe de l'argent et puis après, on se disperse.
Oui, mais je crois que c'est aussi une question du degré de volonté politique.
Mm-hmm.
La volonté politique dans les chefs de ceux qui doivent mettre en œuvre cette décentralisation est appréciée par rapport à leur implication. Donc, la campagne, c'est vrai, elle peut être organisée, mais si on ne sent pas la volonté d'aller rapidement vers l'effectivité de la décentralisation, même la campagne ne va pas produire. Parce qu'après le passage, après les 3 mois qui sont consacrés, les gens vont oublier parce que bon, ça va rester théorique. Vous savez, notre pays a toujours vécu, depuis la Première République jusqu'à la Deuxième République, dans une situation où il y avait divergence entre les textes juridiques et la pratique sur le terrain. C'est pas la première fois que nous connaissons la décentralisation, même si aujourd'hui elle est un peu plus prononcée avec la consécration du régionalisme. Mais on a toujours connu la décentralisation. Mais il y avait toujours une différence entre les textes, les beaux textes, et la pratique sur le terrain.
Voilà.
Et on risque de penser que ce sera la même chose. Voilà pourquoi il faut sensibiliser les gens pour que lorsqu'ils vont s'approprier cette décentralisation, que ce soit eux qui fassent pression sur les dirigeants pour dire non, mais nous savons que nous avons droit à ça et ça.
Voilà. Maître Mashaka et Albumbashi, nous avons à Kinshasa honorable Kanizia et puis Ismaël Albumbashi. Nous allons vous accorder la parole pour votre contribution sur la réussite du processus de décentralisation.
Parole aux auditeurs.
Maître Mashaka, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Bon, vous avez suivi les uns et les autres, maître, quel est votre point de vue pour la réussite du processus de décentralisation?
Merci beaucoup Monsieur Pierrot, je salue la décision du gouvernement pour la campagne de sensibilisation sur la décentralisation dans notre pays. Vu la dimension de notre géographique de notre pays, en tout cas, cette mode de gestion doit être salué et appliqué d'une bonne manière. Mais la situation qui est là, M. Perrault, la campagne là doit beaucoup intéresser au moins 2 catégories de personnes, mais la population, nous subissons toujours les lois que notre gouvernement sont en train de nous édicter. Mais le problème, c'est aux dirigeants, ceux qui vont mettre en pratique cette dernière mode de gestion, Monsieur Pierrot. Puisque vous savez, aujourd'hui, il faut que notre gouvernement instaure le système de séminaire pour nos dirigeants. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on nomme quelqu'un, puisque pour le moment, vous allez trouver un ingénieur qui est nommé bourgmestre. Il n'a aucune notion de politique ni de gestion. À ce moment-là, hormis cette campagne-là de sensibilisation, de décentralisation, il faut qu'on organise des séminaires de formation pour nos dirigeants. Et les délais là qu'on a donné de 3 mois, M. Perrot, c'est peu. Il faut que cette campagne-là ou bien ces programmes-là soient insérés même dans nos chaînes de radio et télévision. Qu'on mette des jours officiels, on sait que de telle heure à telle heure, on doit commencer à faire passer cette campagne afin que cette dernière soit restée sur les têtes de nos dirigeants. Et je donne aussi cette tâche, M. Perrot, à nos députés. Quand ils descendent ici dans les vacances parlementaires, ils doivent aider la population et surtout les dirigeants à leur faire voir leurs tâches, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le cadre de décentralisation, M. Perrot.
Merci beaucoup, Maître Mashaka. Vous avez épinglé les autorités, cela veut dire qu'il y a des bourgmestres, il y a des maires de villes. Tous, ils devraient en principe être sensibilisés avec des séminaires de formation sur la décentralisation pour qu'ils puissent comprendre cela. Et là, vous avez aussi évoqué le rôle des élus, les députés, les sénateurs. Quand ils vont en vacances parlementaires, ils ont aussi ces rôles de descendre à la base pour sensibiliser la population, expliquer la décentralisation et les bien fondés. Parce que vous avez évoqué députés et sénateurs, nous tournons ici à Kinshasa avec Honorable Kanizia qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi notre ami de Lubumbashi qui dit que c'est, ça revient aussi aux députés, hein, aux élus, de pouvoir expliquer à la population l'importance de la décentralisation. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour réussir ces processus dans notre pays?
Oui, merci. Je pense qu'il faut avant tout retenir que la décentralisation territoriale, parce que là, il faut recadrer ce débat à l'effort sur la décentralisation territoriale. Parce que la décentralisation, c'est un vaste domaine. Mais je pense que la sensibilisation dont il est question concerne essentiellement la décentralisation territoriale. Il faut retenir que la décentralisation territoriale du point de vue de notre constitution, c'est en fait la toute première, je dirais la plus grande réforme structurelle de l'État qui est envisagée. Parce que c'est l'administration territoriale qui est censée être restructurée à travers la décentralisation. Il faut aussi retenir que la décentralisation, c'est quand même un modèle d'organisation qui a ses principes, je dirais, c'est scientifiquement étudié parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il faut savoir respecter ces principes, sinon on risque de retomber dans le type de décentralisation qu'on a connu à 82, qui en fait sur le plan de la théorie des organisations n'était pas une décentralisation, d'autant plus que l'élément technique fondamental, qui est la structure hiérarchique, n'a pas été pris à compte. Parce qu'il faut dire que la décentralisation, en tant que modèle d'organisation, c'est distinct d'autres modèles d'organisation, comme les modèles centralisés, modèles staff and line, modèles matriciels simples, et ainsi de suite, du point de vue de la structure hiérarchique. La structure hiérarchique des modèles décentralisé, être un peu plus aplati. C'est à cela qu'il faut, prendre en compte les découpages. Parce que les découpages, c'est le processus de l'adaptation de la structure hiérarchique de l'administration territoriale actuelle, qui est la structure hiérarchique du modèle centralisé. On essaie de l'adapter à la structure hiérarchique du modèle décentralisé. C'est important sur le plan technique. On comprend que souvent, la conception de la décentralisation dans notre pays respecte juste le point de vue des juristes, parce que les juristes, c'est qu'ils définissent la décentralisation. Ils s'en tiennent essentiellement au fait qu'il y a dotation à personnalité juridique, autres ne prennent pas en compte cet élément technique. Alors, ceci dit, les découpages et la décentralisation vont ensemble. Un effort est déjà fait à ce niveau. Parce que l'objectif du découpage, comme je l'ai dit, c'est d'aplatir. Il faut rapprocher le sommet hiérarchique de la base opérationnelle. Il faut essayer de le rapprocher. Au niveau de la loi, durant le mandat passé, un effort important est fait sur le même plan. Vous savez que dans la loi sur la décentralisation, on avait prévu que la tutelle de la décentralisation soit au niveau du pouvoir central. Mais la loi telle que réécrite au Parlement avait corrigé cet art en ramenant la tutelle de la décentralisation au niveau du gouverneur des provinces. C'est important sur le plan technique. Et à cela, s'il faut ajouter les découpages, donc on est en train de faire un effort pour corriger les erreurs techniques qui étaient commises dans la décentralisation de 82, l'erreur qui avait consisté à laisser, à garder la structure hiérarchique de modèle centralisée et on y avait greffé des entités territoriale dotée de personnalités juridiques, si bien que ce n'était pas une décentralisation sans technique, évidemment. Ça, c'était un élément qu'il faut ajouter. Mais,
okay,
à ce moment où on lance, n'est-ce pas, la sensibilisation. D'abord, je crains que cette sensibilisation soit lancée tout simplement parce que l'accord cadre a prévu, hein, parmi les engagements pris, il y a l'engagement pour ce qui concerne la décentralisation. Je crains qu'on le fasse juste par rapport à cet accord. Sinon, ce serait malheureux. Mais ce n'est pas pour autant dire que la sensibilisation n'a pas sa raison d'être. Mais la question, c'est de dire sur quoi faut-il sensibiliser la population. La sensibilisation de la population, à mon avis, devrait se fonder sur essentiellement la culture fiscale. La culture fiscale. Parce que la prise à charge de la décentralisation, il y a des impôts que la population doit payer. C'est des types d'impôts que cette population ne paie pas depuis des années. Par exemple, la contribution minimum que chaque individu majeur doit payer. C'est cela la ressource principale, la ressource de financement principale des entités territoriales décentralisées. Ça, ce sont des éléments essentiels sur lesquels il faut une sensibilisation de la population.
Merci.
Évidemment, il faut être plus pratique parce que là aussi, la population voudrait que, au niveau des autorités, il y ait une certaine un crédit à ce qui concerne la gestion des moyens. Mais et toujours l'autre élément que je voulais ajouter ici,
au niveau du
pouvoir central, il faut qu'il y ait suffisamment de cette capacité d'encadrement de ces processus.
Mm-hmm.
Il faut voir par exemple comment on a tenté de mettre en place de nouvelles villes. Mais on a enregistré, on a retenu pour pouvoir prendre les statuts de villes ou de communes des agglomérations qui n'ont même pas réuni les conditions telles que fixées par la loi.
C'est-à-dire
qu'il y a un laissé-aller.
Merci, donc, merci
il
beaucoup.
Il s'agit d'une réforme importante. Si le pouvoir central ne met pas suffisamment de sérieux pour l'encadrement de ces processus, on peut justement arriver à craindre ce que les autres évoquaient, tous ces débordements, le tribalisme, autres chiffres.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, honorable Kanizia, pour toutes ces précisions. D'ailleurs, vous avez évoqué le problème des nouvelles villes, nouvelles communes. Nous allons en parler d'ailleurs demain dans un débat consacré à des pistes et des solutions pour rendre ces nouvelles villes, ces nouvelles communes viables qui ont été créées, y compris bien sûr la nouvelle ville consacrée à Patrice Emery Lumumba. Ça sera au centre de notre échange demain dans Parole aux auditeurs. Nous allons revenir rapidement sur les antennes à Ismaël et Serge Matata qui est à Mahag. Et pour terminer cette émission, et revenir à notre invité pour conclure rapidement, Maître Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Comme nous sommes bousculés par les temps, en 45 secondes, quel est votre point de vue, Ismaël?
Ma préoccupation, c'est d'abord d'encourager d'abord le gouvernement de se faire, de prendre d'abord cette initiative. Cette campagne pourrait avoir été fixée juste quand on prendrait aussi en considération tout ce qui est prévu pour décentraliser ce pays. Je vois que c'est une bonne méthode, pourquoi? Parce que ça permettrait d'abord les fonctionnaires de l'État pour être bien équipés et pour bien être identifiés facilement sans avoir aussi tardé. Et vous remarquerez aussi que dans la loi, on dit que les bons citoyens doivent payer les impôts pour la reconstruction du pays. Vous remarquerez d'autre part, donc, il y a des minimums de fonctionnaires de l'État. Parfois, on ne parvient pas à enquêter, à faire des différentes démarches pour certaines situations. Alors, à juste titre, quand on va aussi décentraliser certains endroits et d'autres, ça va permettre à Envie de faire toute l'enquête,
soit
la sensibilisation plus rapide.
Merci beaucoup, Ismaël. On va terminer avec vous, Serge, rapidement. Vous êtes à Mahagi. Ismaël, d'une manière globale, soutient le processus de décentralisation qui pourrait rapprocher les administrés de ceux qui les administrent. Et nous allons terminer avec vous, Serge. Vous êtes à Mahagi. Bonjour Serge.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre invité. Au-delà de tout ce que les amis ont dit, je le souligne, moi je pense que le gouvernement congolais doit d'abord faire preuve d'une grande volonté par rapport à la décentralisation qui a été la volonté du peuple congolais exprimée lors de la référendum de 2006. Donc aujourd'hui, il faut absolument que l'État congolais prouve par les actes avant d'aller sensibiliser. Parce que si vous prenez la balance entre ce qui a été fait depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui par rapport à la décentralisation, vous trouvez que, au-delà des tests qui sont invoqués par notre invité, les actes sont vraiment minimes. Les futures provinces ne sont pas très bien préparées. Il y en a vraiment donc qui ne disposent même pas des villes. Et en plus, moi je pense aussi que la meilleure entité qui doit être décentralisée, ce sont les territoires. Parce que ce sont les territoires qui sont pratiquement la moelle épinière d'une république. Comment voulez-vous décentraliser le chefferie, le collectivité, pendant que l'entité qui les gère n'a pas de moyens, on lui a pas disponibilisé des moyens pour
Merci beaucoup Serge, désolé que votre intervention elle est vraiment très très intéressante, mais malheureusement on n'a que deux minutes pour terminer cette émission. Mais dis-moi, vous pensez qu'il faut que l'État congolais et le pouvoir politique puissent prouver par les actes qu'il a vraiment la volonté d'aller à la décentralisation au-delà des textes juridiques évoqués? Nous revenons à vous, Maître Gilbert Kiatingué, parce que là on va vraiment terminer cette émission. On a écouté les uns et les autres, comme j'avais dit la fois passée, ce n'est pas la tenir une mission autour de la décentralisation parce que c'est un processus. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière brève de tout ce qui a été dit dans cette émission pour se projeter dans l'avenir?
La matière est vraiment vaste. Et on aura l'occasion de se retrouver souvent pour aborder d'autres aspects. Mais j'ai retenu quand même que on est préoccupé par le fait que le séminaire ou la campagne de sensibilisation prenne 3 mois. Et moi, je crois que il faut quand même commencer quelque part. Mm-hmm. Donc, le fait que 50 ou 100 ou 200 personnes peuvent attendre parler de la sensibilisation, c'est déjà une bonne chose. Mm-hmm. Si celles-là peuvent aussi en parler aux autres, et petit à petit, tout le monde va s'approprier, en fait, le processus et va chercher à en savoir davantage. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas penser que les autorités qui nous dirigent connaissent elles-mêmes la décentralisation. Donc tout le monde a besoin d'être sensibilisé. Donc dire d'emblée que, par exemple, tous les députés qui vont en vacances parlementaires doivent sensibiliser sur la décentralisation, je crains que cette mesure ne soit pas efficace parce qu'il y a des députés qui n'ont pas la formation des juristes ou qui n'ont pas l'occasion, qui ne sont pas eux-mêmes imprégnés des notions de décentralisation. Donc tout le monde doit apprendre. Il ne faut pas dire que telle personne est supérieure à telle autre par rapport à l'appropriation de la décentralisation. Et je ne partage pas non plus le point de vue de l'honorable qui a parlé tout de suite, qui a parlé des aspects financiers, qu'il faut donc sensibiliser beaucoup plus sur la fiscalité, parce qu'à ce moment-là, les contribuables ne vont pas comprendre pourquoi ils vont payer leur argent. Donc il faut sensibiliser sur tous les aspects de la décentralisation pour qu'en payant l'impôt, on comprenne pourquoi on paye. C'est pour faire c'est pour être affecté à quel poste budgétaire. Et donc c'est vraiment, merci beaucoup.
Merci en tout cas, on est bousculé par les temps, mais ce n'est pas la dernière émission autour de la décentralisation. Nous vous disons sincèrement merci. Et merci aussi à tous les auditeurs, hein. Ils ont été nombreux à vouloir intervenir sur cette question. On va rester dans le même registre demain, parce que vous savez, l'État congolais vient de créer une nouvelle ville dénommée Lumumbaville au Kasai Oriental, en hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national, selon le décret 012/11 du 18 février 2012, qui devait accorder à toute agglomération d'au moins 100 000 habitants disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales les statuts des villes et communes. Il y en a aussi qui ont été créés. Nous allons en parler avec vous pour cette nouvelle ville qui vient de s'ajouter. Et la question pour le débat de demain, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre viable toutes ces nouvelles villes créées. On se retrouve demain à la même heure. Merci à toute l'équipe. Au revoir.